Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, l'Église aujourd'hui nous fait méditer sur une double guérison de notre Seigneur Jésus-Christ, cette guérison du lépreux et celle du serviteur paralytique de ce centurion. En écho à cette double guérison, l'oraison du jour nous fait demander au Seigneur de jeter un regard favorable sur notre infirmité. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa vie terrestre, ici-bas, dans sa vie publique, a guéri de nombreux malades, de nombreuses infirmités corporelles, également des infirmités spirituelles, puisque à plusieurs reprises, nous le voyons dire, tes péchés te sont remis. Le but de l'incarnation du Verbe de Dieu, c'est le mystère de la rédemption. Et donc, c'est le mystère du relèvement de notre infirmité. Eh bien, chers frères, il nous faut donc reconnaître, pour pouvoir avoir une vraie vie chrétienne, une vraie vie spirituelle, mais c'est la même chose, nous devons reconnaître que nous sommes infirmes, que nous manquons de fermeté, de stabilité dans notre édifice spirituel. C'est ça être infirmus en latin, le in privatif et firmus, donc la fermeté, la solidité sur nos bases. Eh bien, c'est une réalité. C'est une réalité qui est une réalité de soi naturelle. C'est-à-dire que tout être en dehors de Dieu ne peut pas être comme Dieu, parfait. Par conséquent, tout être en dehors de Dieu comporte une certaine imperfection et une certaine infirmité. Donc même par nature, même si nos premiers parents n'avaient pas été posés dans l'ordre surnaturel par la justice originelle, par la grâce sanctifiante, eh bien ils auraient été infirmes, même du point de vue spirituel. Le bon Dieu a voulu les élever, nos premiers parents, dans l'ordre surnaturel et pallier justement cette infirmité par cette grâce sanctifiante qu'on appelait chez nos premiers parents la justice originelle. Par conséquent, tout l'édifice spirituel de nos premiers parents était parfait, n'était pas infirme. Il n'y avait pas d'infirmité. Leur intelligence était parfaitement ordonnée à Dieu, leur volonté ordonnée par leur intelligence et leur sensibilité ordonnée par leur volonté sous l'influence de leur intelligence éclairée par Dieu et par la foi. Donc pourquoi sont-ils tombés? En raison non pas d'une infirmité, mais de l'imperfection de la nature humaine. La nature humaine est capable de pécher. Nos premiers parents n'étaient pas impeccables. Et Dieu avait voulu, comme pour les anges, leur donner une épreuve. Et malheureusement pour nous, ils sont tombés et ont causé l'infirmité de notre vie spirituelle. Cette infirmité, ce sont les conséquences du péché originel. Nous les connaissons, c'est le désordre. Nous avons parlé des facultés humaines, l'intelligence, la volonté, la sensibilité. Eh bien, tout cela est désordonné, tout cela est maintenant infirme. Après le péché originel. Il est donc important, pour faire face à une mentalité naturaliste qui prétendrait dire que l'homme est naturellement bon, il faut reconnaître d'abord cette infirmité et les conséquences du péché originel que sont l'ignorance, dans l'intelligence, la malice dans la volonté, la concupiscence dans la sensibilité, c'est-à-dire cette attirance de notre partie sensible, de nos passions pour ce qui est illicite, ce qui est contraire à la volonté de Dieu, à ses commandements, et même ce qui est contraire à la raison. Notre partie sensible avec ses passions ont tendance à ne plus être ordonnée, mais à se laisser aller. Donc les passions, la haine, l'amour, la colère, la crainte, etc. Tout ça, mes bien chers frères, tout cela est désordonné. Et donc nous sommes effectivement infirmes. Même baptisés, nous restons infirmes. L'apôtre saint Paul nous l'a dit, l'Église l'a toujours enseigné, ce péché originel, bien qu'il ait ôté de notre âme, reste cette blessure dans notre âme, et donc ces conséquences du péché originel, ce que saint Paul appelle le vieil homme, qui devra être combattu tout au long de notre vie. Les conséquences de cette réalité dont nous devons être absolument conscients, non seulement dans ce que nous ne sommes pas des bêtes, nous avons une intelligence et une volonté, nous sommes des êtres spirituels, nous sommes faits pour Dieu, nous devons avoir conscience que nos facultés sont blessées, affectées. Il y a donc, mes bien chers frères, des conséquences. La conséquence, c'est de ne pas exagérer cette infirmité. Et oui, certains ont exagéré cette infirmité, notamment le protestantisme, mais encore d'autres hérésies. Pour le protestantisme d'origine, vous savez, le protestantisme est multiforme. On pourrait dire qu'il y a autant de protestantisme que de protestants, puisque chacun se prétend inspiré par Dieu, par le Saint-Esprit pour interpréter la Sainte Écriture. C'est le défaut radical du protestantisme, parce que s'ils étaient tous aussi bien inspirés, ils auraient tous exactement la même doctrine, ce qui est loin d'être le cas. Ou s'ils ont la même doctrine, c'est justement dans le mal, dans des hérésies, et particulièrement par rapport au péché originel. La confusion que font Luther, Calvin et autres entre la nature et la surnature dans nos premiers parents fait que, puisqu'il y a ce péché originel, la nature elle-même de l'homme est atteinte radicalement. Donc, pour le protestant, nous sommes non seulement infirmes, mais nous sommes carrément impotents. Et nous sommes tellement impotents que le péché n'a même plus d'importance pour le protestant. Pour le protestant, nous sommes des impotents qui ne sommes jamais guéris. Nous ne le serons jamais pour eux. Tout ce que fait Dieu pour nous sauver, c'est bien que pourri, bien qu'impotent, bien que moribond spirituellement, il refuse de considérer ce mal et nous sauve. Comment être sauvé? Juste en croyant que Christ est notre sauveur personnel, pour employer leur jargon qui est repris très largement par les néo-modernistes actuels. Il suffit que le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, soit mort sur la croix pour tout le monde, et en faisant cela, il a fait en sorte de ne plus considérer notre infirmité. Vous voyez que c'est quand même contraire à ce que fait notre Seigneur même durant sa vie. Quand il dit à ceux qu'il guérit, soyez guéris, ils sont vraiment guéris. Quand il dit aux paralytiques, tes péchés te sont remis, ces péchés sont réellement remis. Ce n'est pas juste qu'il refuse de considérer cette infirmité, notre Seigneur. Et après, quand il dit « Lève-toi, prends ton matelas et marche », eh bien, il se lève, il prend son matelas, il marche, il est réellement guéri. Donc, il ne faut pas exagérer notre infirmité, dans ce sens que nous pouvons nous relever de notre infirmité. Nous pouvons corriger les désordres dans notre intelligence, le désordre de l'ignorance. Nous pouvons corriger le désordre de la malice dans la volonté. Nous pouvons corriger, évidemment, le désordre dans notre sensibilité, dans nos passions. C'est possible. C'est tout le travail de la vie spirituelle. Tout le travail, l'œuvre de la vie chrétienne. Et même les sacrements n'ont d'autre but que nous réordonner vers Dieu et donc nous donner les moyens. C'est ce que nous disons dans l'oraison d'aujourd'hui. Infirmitatem nostram propitius respice. Nous demandons à Dieu de regarder avec bonté, avec bienveillance, non pas la bienveillance protestante qui essaye d'oublier notre infirmité. Nous demandons à Dieu d'exteram tue majestatis extende, d'étendre sur nous la droite de sa majesté, cette main de Dieu qui vient justement nous relever, nous redresser. Donc, la première réalité, c'est de ne pas exagérer cette infirmité. On peut s'en sortir et on doit s'en sortir. On doit faire comme ce lépreux demandait à notre Seigneur Jésus-Christ d'être guéri. Nous devons croire en lui comme le centurion. Nous devons faire ce qu'il nous demande, comme justement ce paralytique ou bien encore l'aveugle-né auquel notre Seigneur Jésus-Christ demande un certain rituel, bien qu'il aurait pu le guérir directement. Il lui demande, il lui met de la terre avec de la salive sur les yeux, puis il lui dit d'aller se laver. C'est pour nous montrer que la guérison dans la vie spirituelle demande un effort de notre part. Mais donc nous pouvons être guéris avec l'aide de Dieu et avec nos efforts. Donc ne pas exagérer cette infirmité, comme on le fait dans le protestantisme en particulier. Il ne faut pas non plus minimiser cette infirmité, comme le fait le naturalisme, le rationalisme moderne, qui nie totalement l'ordre surnaturel et qui a une confiance telle dans l'intelligence humaine qu'ils exaltent la science comme une nouvelle religion, alors en oubliant complètement la faillibilité de l'intelligence humaine, la capacité malheureusement qu'elle a à se tromper, même en travaillant. De même, il y a une négation de la malice de la volonté humaine par la liberté qui est mise en avant. Chacun peut faire ce qu'il veut. Et finalement, cette exaltation de la liberté, c'est croire que en disant cela, les hommes vont se comporter bien, comme s'ils n'avaient pas besoin d'une aide extérieure. L'aide notamment de la loi, une vraie loi, pas des lois inventées purement par les hommes, mais des lois qui découlent de la loi naturelle, des lois qui découlent des lois positives divines, ou encore des lois ecclésiastiques qui vont venir rendre plus pratique, plus immédiat pour nous ces lois. C'est une aide, mes bien chers frères, pour rectifier notre volonté. Et on le voit, l'échec de la société actuelle, qui est une société de moins en moins sûre. Pourquoi? Eh bien, parce que on refuse cette réalité de l'infirmité de la volonté humaine. Et quand la réalité oblige à l'admettre, on refuse le vrai remède, à savoir la vraie religion, notre Seigneur Jésus-Christ, les principes de la vie chrétienne, les commandements de Dieu. Ce n'est pas avec leur petite loi purement humaine, sans aucun fondement, puisqu'ils n'ont plus de Dieu, puisqu'ils n'ont plus de loi supérieure. Il n'y a plus de fondement à la loi, plus de fondement à la morale, plus de règlement de la liberté, d'ordre dans notre volonté. Et par conséquent, il y a tout le déchaînement, évidemment, des passions qu'on va en plus encourager. Il faut faire cette analyse. Il faut la partager aussi autour de nous. On se plaint de la mort, par exemple, qui est largement distribuée maintenant par toutes les racailles possibles et imaginables, à un âge de plus en plus jeune, parce que on n'a plus le sens de la vie. Mais comment ces gens peuvent avoir le sens de la vie si, en même temps, on approuve l'avortement qui tue la vie à l'origine, si on approuve l'euthanasie, soi-disant euthanasie, euthanasie en soi ça veut dire bonne mort, ce n'est pas une bonne mort que de se donner la mort ou de demander qu'on nous la donne. On met la mort partout. Il ne faut pas s'étonner qu'entre les deux, les gens aient cette culture de mort, que ça ne leur fasse rien de donner des coups de couteau ou autre. C'est logique. C'est logique parce que on ne reconnaît pas l'infirmité de la nature humaine et surtout, on ne reconnaît pas le remède à apporter à cette infirmité. C'est-à-dire la vraie religion, c'est-à-dire la grâce sanctifiante donnée en particulier par les sacrements de l'Église, c'est-à-dire la vie chrétienne qui doit découler de cette grâce sanctifiante et de la pratique des sacrements. Cette vie chrétienne qui nous fait adhérer à Dieu. Et en adhérant à Dieu par la foi, l'infirmité de notre intelligence va être aidée. Elle ne va pas être soignée absolument, comme si dans la révélation divine, eh bien, nous devions trouver toutes les vérités, même d'ordre naturel. Ça, c'est encore un autre problème, mais une autre erreur, malheureusement. Il ne faut pas croire que notre intelligence va être complètement soignée, mais en tout cas, elle aura l'essentiel pour son salut dans les vérités de foi. De même, il ne faudrait pas croire que notre volonté sera parfaitement affermie à partir du moment où nous recevons le Saint-Baptême, à partir du moment où nous recevons régulièrement les sacrements, le sacrement de pénitence, ou notre force, notre nourriture spirituelle, le sacrement de l'Eucharistie. Là aussi, ce serait méconnaître notre infirmité spirituelle. Nous avons besoin de ces remèdes donnés par notre Seigneur Jésus-Christ, et il a voulu que la force nous soit donnée principalement par ces remèdes que sont les sacrements. Mais cela implique de correspondre. Si nous prenons les remèdes, quelqu'un qui est paralytique, paralysé, si, admettons qu'il soit guéri d'une manière ou d'une autre, miraculeusement ou par des moyens scientifiques, humains. Et si ce paralytique, il ne fait pas de la rééducation, il ne fait pas d'efforts, S'il reste sur son lit de paralytique, il reste paralytique en réalité, même s'il a la capacité en soi de marcher, d'avoir une activité normale. Ce que je veux dire par là, c'est que les remèdes qui nous sont apportés, les secours qui nous sont apportés, notamment par les sacrements, ont un but, que nous marchions dans notre vie chrétienne, que nous avancions dans notre vie spirituelle. S'il y a ce support à notre infirmité qui reste réel, nous avons tendance à être boiteux, nous avons ces blessures qui se réveillent, et malheureusement, tout au cours de notre vie, nous risquons effectivement de tomber, et il faut en être conscient, mais il faut avancer. Et les secours de notre Seigneur sont faits pour cela. Donc ne pas nier cette infirmité, profiter de la droite de Dieu qui nous soutient des sacrements et avancer dans la vie spirituelle. Parce que ce qui nous renforce, ce qui nous rend plus fermes, c'est de vivre chrétiennement avec l'appui de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, on laisse un peu de côté la question ici des passions de l'âme, le côté sensible. Pourquoi ? Parce que si notre intelligence est bien réordonnée par la foi, une foi véritable, pas une foi fidéiste, ni une foi rationaliste, si notre volonté est secourue justement par les aides, par la grâce sanctifiante donnée par notre Seigneur Jésus-Christ, et ces passions de l'âme vont se réordonner justement à partir du moment où nous nous mettons en marche, nous sortons de notre lit de paralytique et nous nous appuyons sur la droite, sur la main de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, mes bien chers frères, ce que l'Église nous fait demander aujourd'hui, ce que nous répéterons durant cette semaine, je vous le rappelle et je vous invite régulièrement à le faire, utilisez ces petites collectes, oraisons de l'Église dans vos prières de tous les jours. C'est tellement bref, c'est presque une oraison jaculatoire. Il faut quelques secondes pour réciter cette prière. Dieu Tout-Puissant et Éternel, regardez avec bienveillance notre infirmité et étendez la main de votre majesté pour justement nous soutenir, nous soigner, nous relever, nous aider à avancer vers notre fin qui est le royaume des cieux dans lequel il n'y aura plus d'infirmité, dans lequel nous serons devenus incapables de pécher, incapables de tomber, car nous contemplerons la divine majesté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, soit-il.